Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons un texte tiré du média suivant. L'inconvénient. Au programme, intrication mutagène. Bonne écoute.
Intrication mutagène, un texte de Caroline Georges, paru au printemps 2023 dans le numéro 92 de la revue L'Inconvénient. 6 août 2022. Le portrait d'une cyborg au long cou et à l'ossature spongieuse parsemée de fleurs attire mon attention. L'image avec ses textures hyper réalistes s'avère la plus réussie parmi les 9 propositions que l'intelligence artificielle IA a composées en réponse à ma commande textuelle. Je clique au milieu du visage de mon personnage, le fichier s'ouvre en plein format. Je l'enregistre sur mon disque dur. En filigrane, derrière l'opération à l'écran, d'innombrables phrases et lots de compositions picturales se succèdent en rafale. Nous sommes 13 000 à tester, tous ensemble sur le serveur Discord de la compagnie londonienne Stability Hall, les possibles de Stable Diffusion, SD, un algorithme de texte à image qui a été entraîné à reconnaître les relations statistiques entre les éléments au sein de 2 milliards de documents visuels couplés à leur légende. Notre groupe fonctionne en circuit fermé, accessible sur invitation seulement. Le profil de chacun indique que nous sommes les early beta users de cette IA. Avec un ravissement croissant, nous découvrons la stupéfiante puissance de l'outil. Contrairement à Midjourney, une application similaire que certains d'entre nous utilisent depuis déjà plusieurs semaines, SD réussit à créer des compositions très nettes, cohérentes, à une vitesse fulgurante. Cette façon de créer des images avec l'IA requiert une nouvelle manière d'écrire, à la fois littéraire et technique. Je formule et reformule des bouts de poésie, des paragraphes plus scientifiques, d'autres relevant de l'incantation. Je mêle des techniques photographiques, le daguerréotype et le polaroid avec une touche de ferrotype. J'ajoute des indications précises quant à la disposition des sources lumineuses. Je relance l'algorithme avec des modifications textuelles ou une commande supplémentaire ou les deux à la fois. J'adore la vitesse du processus. J'ai l'impression de dialoguer avec le génie de la lampe merveilleuse d'Aladin. Ces propositions visuelles me permettent de plonger encore plus cru dans mon imaginaire pour étoffer le descriptif de mes intentions artistiques. Le processus est dynamique, stimulant, incessant. En quelques mois seulement, ce dialogue me permettra de générer plus de 30 000 images. Ce jour-là, donc, je suis assise au bout de ma chaise, le corps tendu en suspension entre le siège et l'écran. Je me sens survoltée depuis que j'ai commencé à formuler mes requêtes il y a quelques minutes à peine. Mon regard circule rapidement entre mes équations textuelles, l'activité sur le fil et les annonces des développeurs. Je vois alors passer d'autres images de cyborgs, similaires aux miennes, un peu trop similaires. Dans quelques secondes, un bouquet de puissantes émotions et d'idées contradictoires s'amalgameront en court-circuit pour aussitôt exploser en épiphanie. Quand les premiers clavardoirs sont apparus à la fin du XXe siècle, j'envisageais avec fébrilité la perspective de me retrouver seul devant mon écran, protégé par celui-ci, face à de multiples êtres avec qui je pouvais espérer dialoguer en temps réel. Je venais de lire « Le phénomène humain » de Teilhard de Chardin et j'avais en tête son concept de la noosphère, cette strate de la planète formée par l'imaginaire, les idées, les pensées de l'humanité, le tout s'intriquant de plus en plus et suscitant ainsi une intensification de la conscience collective et individuelle jusqu'à une apothéose spirituelle. Une image percutante qui évoque à la fois l'évolution possible de l'humanité et l'invention d'Internet plusieurs décennies avant son avènement. La noosphère a eu une influence immense sur mon processus de création et se retrouve d'ailleurs infusée dans mon roman « Sous béton ». Or, avec son défilé de blagues vulgaires et de propos décousus vomis par quelques trolls, la réalité du web au tournant du millénaire n'augurait rien de pertinent. Sans plus me soucier de cet embryon de société numérique qui ne titillait pas du tout mon imaginaire futuriste, je suis retourné à mes livres. Une décennie plus tard, quand la vague de retrouvailles sur Facebook s'est amorcée, j'ai refusé net de me joindre à la mêlée. Je boudais encore les réseaux sociaux. Mon ordinateur était, et demeure aujourd'hui, un outil de création. C'est d'ailleurs afin d'élargir mon terrain de jeu que j'ai fini par m'intéresser au potentiel créatif du web. En 2006, dans la foulée d'une exploration de la sublimation esthétique, thématique au cœur de mon roman Ataraxie, je crée une incarnation virtuelle de ma narratrice dans le métavers Second Life, SL, un univers virtuel persistant. L'avatar 3D m'apparaît tel un oignon dont les pelures s'empilent en amas multiples et disparates. Dès le premier jour de mon immersion, je suis ébahi par la quantité de textures nécessaires pour donner forme à mon personnage. Chacune amalgame de nombreuses images, certaines provenant de ressources professionnelles coûteuses, d'autres dessinées à la main de manière plus ou moins convaincante. D'autres encore sont extraites de publications trouvées en ligne et fort probablement protégées par le droit d'auteur. Une fois fondues ensemble par quelques outils numériques et bien étalées selon les canevas fournis par le métavers, les images deviennent des textures cohérentes sans plus aucune trace de leur provenance. De manière similaire aux images aujourd'hui générées par l'IA, chaque avatar est composé d'un tissage post-moderne, une macédoine de fragments d'œuvres visuelles altérées, transformées. Ainsi, des traces photographiques de corps réels, peut-être disparues depuis longtemps, reliées par des fils numériques dans une sorte d'expérimentation à la manière de Frankenstein, viennent structurer une ossature virtuelle et simuler une présence d'inspiration humaine elle-même pilotée par une véritable personne qui se camoufle sous son masque personnalisé pour toutes sortes de bonnes ou de très mauvaises raisons. Écoutez, Intrication mutagène, un texte de Caroline Georges, paru au printemps 2023 dans le numéro 92 de la revue L'Inconvénient. Peu de temps après mon inscription à SL, malgré ma répulsion pour les réseaux sociaux, je rejoins Flickr, un site de partage de photos. Je m'inscris sous le nom de mon avatar. Je suis alors une créature numérique virginale et j'intègre un groupe fréquenté par mes semblables, d'autres avatars de SL, dont l'identité réelle ne sera, pour la plupart, jamais révélée. Ce réseau remplit une fonction pragmatique. Tous les éléments 3D de notre monde virtuel, du plus petit ongle au plus grand des manoirs, sont importés par les membres de la communauté. Et tous ces gens cherchent une manière de promouvoir leurs créations et produits. Flickr devient une sorte de catalogue photographique des objets 3D disponibles dans le métavers. C'est avec un projet d'autoportrait de mon personnage que je m'impose dans ma nouvelle micro-société. Mon roman, de synthèse, a été inspiré par cette expérience de création. Or, au moment où le texte entrait dans le processus éditorial, un volet inédit de ma vie virtuelle s'est amorcé, un chapitre pour le moins troublant. Elle se nomme Migel. Elle complimente toutes mes photos avec des enfilades de points d'exclamation, de cœurs et de fleurs. Un jour, elle est la première à commenter ma publication et sa photo de profil m'alerte. Le travail d'éclairage s'avère bâclé. L'édition inexistante, mais l'intention est manifeste. Elle a tenté de reproduire une de mes images. Même pose, même cadrage, même cheveux, vêtements, accessoires. La page de sa galerie Flickr me réserve une surprise supplémentaire. Une dizaine d'imitations de mes photos s'alignent sans aucun crédit concernant la source d'inspiration. Est-ce du plagiat? Du fan art? Une provocation sur le mode passif-agressif? Quelques personnes bienveillantes m'assurent que mon travail, établi depuis longtemps dans la communauté, influence celui des aspirants photographes de SL. Je devrais être honoré par cet hommage. Or, Migel ne se contente pas de reproduire mes images, elle cherche aussi à se faire connaître et propose ses services à tous les designers dont j'utilise les objets au sein de mes compositions. Certains refusent. On lui explique que son comportement plagiaire est inacceptable. Piqué au vif, Migel m'écrit un très long message exalté. Elle m'assure n'avoir jamais eu l'intention de m'offenser et me jure que les similitudes entre nos images sont de pure coïncidence. C'est que nous sommes des sœurs, des jumelles cosmiques destinées à exprimer la même lumière. Je reste pétrifié devant mon écran, incapable de formuler une réponse, inapte à déterminer si Migel est plongée en pleine crise psychotique ou si elle se moque de moi. Ce que je constate, c'est que son comportement de plagiaire s'intensifie. Désormais, quelques heures après la publication d'une nouvelle image de ma part, elle publie la sienne, quasi identique. Elle s'abonne alors au compte de tous ceux et celles qui s'activent sur mes publications, incluant les membres de ma famille. J'ai de plus en plus l'impression d'être la proie d'un monstre métamorphe qui veut m'avaler tout entière. Je cherche à comprendre ses motivations et son objectif. Est-ce un simple jeu? Une véritable obsession? L'expérience malicieuse d'un doctorant en histoire de l'art qui prépare un essai sur l'esthétique relationnelle des avatars? Est-ce une manière de communiquer propre à une nouvelle génération dont j'ignore les codes? Je finis par poser la question directement à Migel. Pour toute réponse, elle me bloque. Au même moment, je commence à recevoir des messages de mes abonnés qui me demandent, agacés, pourquoi je publie mes images sur deux comptes à la fois. J'explique à qui veut bien l'entendre que je suis victime d'une harceleuse. La situation m'apparaît évidente, sans aucune ambiguïté. Pourtant, ces personnes continuent de saluer mes images et les siennes avec les mêmes compliments et marques d'appréciation. Je sais que je devrais ignorer les manigances parasitaires de Migel, me concentrer sur le plaisir de découvrir de nouveaux éléments 3D et de mettre en valeur les créations des designers et des artistes qui stimulent mon processus de création. Mais je n'y parviens plus. Le comportement inintelligible de ma communauté me démoralise. Une amie m'explique alors ce que je n'aurais jamais osé imaginer. MJL s'avère plus généreuse que moi. En quelques semaines à peine, l'intrigante a distribué des mentions « j'aime » à plus de 100 000 images. A-t-elle utilisé un bot qui permet une automatisation de l'opération? Peut-être. Probablement, mais ça importe peu. Par une spectaculaire manipulation hypnotique, la distribution systématique de fleurs et de cœurs à toute la communauté a réussi à occulter ses plagiats. Je suis ébahi, terrassé par un mélange d'effroi et d'incompréhension. Dans un univers virtuel qui se veut un miroir du monde réel, où nous enfilons toutes des copies de la même peau numérique du jour, apposées sur nos ossatures identiques, alors que nos inventaires sont remplis de reproductions des célèbres accoutrements des légendes de la pop ou du cinéma, de costumes de toutes les époques et cultures de l'histoire de l'humanité, ainsi que d'imitations des plus grandes créations de la haute couture. Tandis que mon projet se construit à même les clichés de la représentation de la femme dans les médias et à travers l'histoire de l'art, est-ce dans l'ordre des choses que mon image soit plagiée aussitôt publiée? Pendant quelques jours, je suis paralysé par le reflet déformant que me renvoie la doublure maléfique de mon avatar. En créant l'incarnation numérique de la narratrice d'Ataraxie, j'ai occulté Rosette, l'effrayante coiffeuse cyborg d'apparence humaine qui inflige une séance de torture capillaire à la narratrice. Face à MJL, je me retrouve dans le même état de stupeur que mon personnage romanesque, qui ne sait comment se libérer de la toile dans laquelle il s'est empêtré. Et, du coup, je redécouvre ma narratrice sous un nouvel angle. Ce personnage a été confectionné par la fusion de plusieurs voix de femmes importantes dans la construction de mon identité féminine. Un alliage qui s'apparente à celui des images hybridées au sein des textures de mon avatar. Le jeu de miroir et d'intrication entre les femmes réelles de ma vie, mes idoles littéraires et artistiques, et les femmes virtuelles que j'ai créées semble trouver un aboutissement déliquescent à travers MJL qui forme à la fois l'ombre et l'écho de mon avatar. Et je me demande si je dois apprendre à cohabiter avec mon parasite. Sommes-nous liés par quelques lois de la physique virtuelle? Devrais-je me poser en miroir à mon tour et parodier ces imitations afin d'enrayer la mécanique? Accepter la situation ou contre-attaquer? Telle est la question. J'opte pour une troisième option. Si MJL veut vraiment m'avaler, je vais la sustenter. Une fois pour toutes. Je commence à créer, avec un programme de modélisation 3D, des images beaucoup plus détaillées et réalistes que ce que permet SL, puis je confectionne des photomontages qui mélangent de multiples rendus de modélisation 3D, des captures d'écran de mon avatar, le tout uniformisé par un environnement HDRI. Je complexifie à l'extrême une pratique qui repose déjà sur un palimpseste d'images. Pendant l'opération, j'ai l'impression de me transformer en alchimiste du photoréalisme virtuel. Dès la publication de la première image de cette nouvelle série, le succès est fulgurant. Et, comme prévu, MJL se retrouve devant un festin un peu trop copieux. Ses tentatives de reproduction échouent et mettent en lumière ses limites techniques. Elle ne parvient plus à m'imiter. MJL cesse alors de publier ses images. Ou peut-être a-t-elle tout simplement créé un nouvel avatar afin de parasiter un autre artiste. ce serait ça aussi, dans l'ordre des choses. Vous écoutez « Intrication mutagène », un texte de Caroline Georges paru au printemps 2023 dans le numéro 92 de la revue L'Inconvénient. Quelques années après la disparition de Amgel, au moment où des cyborgs similaires aux miennes apparaissent dans le fil du serveur de Stability Hall, je repense à cet avatar qui m'a profondément troublé. Pendant un instant, je me sens épié, menacé. Or, les règles d'utilisation de l'IA émises par SD sont claires. Ce que nous allons produire pendant la phase bêta relèvera du domaine public. Nous sommes conviés à explorer l'algorithme dans un contexte ouvert, tous ensemble. Et chaque image générée, chaque formule sera accessible pour toute la communauté. Dans quelques semaines, de violents débats autour de l'IA, de la colère suscitée par une campagne de désinformation au sujet du fonctionnement de l'algorithme et de la manière dont il confectionne ses images, enflammeront les réseaux sociaux. Les mouvements anti-IA vont appeler au bannissement de la technologie. Des craintes quant aux droits d'auteur seront soulevées. Une poursuite en recours collectif sera intentée par un groupe d'artistes contre Stability Hall et de trop nombreux faussaires tels que Amgel feront la démonstration des pires utilisations de l'outil jusqu'à ce que l'on confonde celui-ci avec la main malveillante qui en abuse. Mais ce jour-là, tandis que les notions de domaine public, d'open source, d'IA, d'art et de communauté s'enchevêtre dans mon cerveau. Je saisis le lien entre mes images créées par SL et mes nouvelles expérimentations avec l'IA. L'apparence de mon avatar se voulait en constante évolution, un point de transformation stimulé par la créativité d'innombrables designers 3D. Chaque composition picturale mettait en lumière un nouvel amalgame d'objets issus de multiples cultures, d'artistes de générations différentes, de styles divergents, et c'est précisément cette rencontre au sein d'un même corps virtuel qui me stimulait. C'est également ce qui me fascine avec l'IA. La possibilité de générer des mutations infinies qui ne sont ni des copies ni des imitations, mais plutôt des images génétiquement modifiées, pleines de tout ce qui a participé à leur manifestation et dont le tout s'avère radicalement différent de la somme de ses composantes, plus étrange. Alors, dans une sorte d'illumination épiphanique, je comprends du même coup comment dépasser la peur d'être avalé et explorer de manière collective SD. Je commence à amalgamer les commandes textuelles des autres testeurs aux miennes, créant ainsi des super équations. Nous sommes quelques-uns à prendre la même décision à peu près en même temps. Le jeu, semblable au cadavre exquis des surréalistes, se répand aussitôt parmi la communauté et la phase d'expérimentation devient une fête. Je me transforme en neurones qui en stimulent d'autres, lesquels me relancent avec une énergie augmentée. Ensemble, dans un processus d'idéation partagée et mélangée, nous faisons surgir d'improbables créatures, des corps mutants, des paysages entremêlant réalité et fiction, des objets inédits, le tout composé avec un nouvel alphabet visuel forgé à même l'histoire de l'art. Ainsi, pendant quelques heures de l'été 2022, j'accède à la quintessence des réseaux sociaux avec 13 000 autres cerveaux d'un peu partout sur la planète. Et tandis que nous pianotons intensément sur nos claviers, au fait de l'euphorie, il me semble percevoir par l'entrelacement de l'algorithme et de nos intelligences respectives, en filigrane du flux ininterrompu d'images de plus en plus cohérentes, par-delà nos intrications mutagènes, une sorte d'éclat du futur par lequel apparaît, de manière embryonnaire, la courbure de la noosphère. Elle ressemble à une immense bulle d'air en forme de cerveau pleine d'électricité et de circuits invisibles, où s'ouvre un œil parfaitement rond. Je réalise alors que cette vision est un reflet de mon imaginaire. L'énigmatique algorithme biologique au cœur de toutes mes aventures artistiques. Et celui-ci me commande de générer un nouveau roman, au plus vite. C'était « Intrication mutagène », un texte de Caroline Georges, paru au printemps 2023, dans le numéro 92 de la revue « L'Inconvénient ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, Nicolas Wartmann à la recherche, à la présentation et au montage.